Hello à tous, ici Pauline Léniaud et vous écoutez le Super Daily.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode spécial puisque nous avons le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois en quelques jours la star du podcast français, la fine fleur de l'entrepreneuriat bleu, blanc, rouge, le fleuron de la joaillerie Made in France. J'ai nommé Pauline Léniaud. Salut Pauline.
Salut Thibaut, mais vous allez tellement me faire rougir là, je ne sais plus quoi dire.
Salut Pauline.
Ouais, y a John aussi.
Salut à John. Je suis là toujours. Hein.
Voilà. Quel plaisir de t'accueillir à nouveau dans le Super Daily. On va finir par te demander d'être la marraine de la saison 2020.
Ça peut se négocier, ça peut se négocier.
Alors on va expliquer un peu à tout le monde. En fait voilà, on a eu le plaisir d'échanger ensemble au sujet de la plateforme de marque. C'est un épisode qui a été diffusé, si vous ne l'avez pas encore écouté, il y a quelques jours. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et on se dit qu'on avait aussi trois tonnes de questions à te poser sur la stratégie social media de la marque Gemio. Et bien du coup, nous revoilà tous les trois avec Adjane pour parler, cette fois-ci, marketing et réseaux sociaux.
Top.
Pauline, juste pour resituer, tu es la fondatrice de la marque Gemio. C'est une marque de joaillerie Made in France. Est-ce que tu peux assez brièvement nous raconter ce que c'est Gemio, puis comment la marque est née? Alors je sais qu'il y a un storytelling terrible autour de la marque, mais juste pour ceux qui ne connaîtraient pas.
Eh bien, tout à fait. Et puis, tu sais quoi, l'avantage, c'est comme j'ai bien travaillé ma plateforme de marque, je vais pouvoir te dire de manière très simple que Gemio est la première marque de joaillerie personnalisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fabrique tous nos bijoux sur mesure pour nos clients. En quelques semaines à peine, vous allez pouvoir sur le site choisir la pierre de votre choix, le métal de votre choix. Et ensuite, on le fabrique en France, tu l'as bien dit, Thibaut, pour nos clients. Et pour nous, c'était important parce qu'en fait, ça incarne bien la mission de la marque et d'accompagner les femmes dans l'accomplissement de qui elles sont vraiment, parce que un bijou, si tu veux, c'est un objet qui est très symbolique et qui permet de célébrer un moment qui compte, ou ça permet aussi d'exprimer sa singularité. Et donc c'était assez essentiel pour nous de pouvoir répondre à ce besoin via Gemio. Et en gros, pour la petite histoire, pourquoi on a lancé cette entreprise, cette marque, c'est parce que je me suis lancée dans l'aventure il y a 9 ans quand mon compagnon m'a demandé de l'épouser. On n'avait pas de joaillier de famille à l'époque, moi j'y connaissais rien, même pour être honnête. Et quand on a essayé de choisir la bague de fiançailles à deux, on a trouvé que c'était un peu déceptif. On a trouvé que la plupart des grandes maisons, même si c'était très beau, proposaient une expérience qui était souvent hautaine, voire intimidante, et que les créations étaient assez centrées autour de l'or blanc et du diamant. Et franchement, je me suis pas reconnue. Je me suis dit que j'avais envie d'autre chose. Et donc, finalement, l'idée pour moi, c'était de permettre à chacun d'exprimer d'une certaine manière son fort intérieur au travers d'une joaillerie plus personnalisée. Et donc, c'est de là qu'est née l'idée de Gemio, et c'était en 2011.
C'est ce qu'on appelle une digital native vertical brand, hein, c'est ça?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand Gemio est né, on était une marque 100% online à l'époque. Pour une raison simple, c'était pas vraiment pensé. À l'époque, le concept de DNVB n'existait pas. C'était juste qu'en fait, on n'avait pas de sous et qu'en fait, créer des bijoux, ça coûte fort cher. Et donc, on s'est dit, plutôt que d'avoir plein de stocks dans plein de pierres, de métaux, parce qu'en plus, comme t'as compris, l'idée, c'était que ça soit de la joaillerie personnalisée, en fait, on va créer des images qui, à l'époque, étaient des images de synthèse, mais ça pouvait être aussi du Photoshop, mais nous, c'était des images de synthèse. On va imaginer un modèle et plutôt que de l'avoir dans 90 combinaisons possibles, parce que c'est ça, en fait, pour Gemio, il y a chacun de nos bijoux à 90 combinaisons entre les différentes pierres et les différents métaux possibles. Et ben, en fait, on va créer 90 images différentes. Et donc, nos clients, concrètement, achetaient une image, qui ensuite allait être fabriquée dans nos ateliers. Et donc, c'est pour ça, initialement, que ça a été fait sur le net. Pas tellement pour des raisons intelligentes, tu vois, qui étaient qu'on voulait être une DNVB. Mais il se trouve que, c'est ça qui nous a permis de ne pas avoir de stock. C'est ça qui aussi nous a permis d'avoir une dimension assez large au niveau du public tout de suite, parce que plutôt que de juste avoir pignon sur rue et de nous adresser uniquement aux personnes qui étaient dans le pâté de maison, en fait, on a pu commencer à faire des campagnes de publicité. À l'époque, c'était surtout AdWords, il n'y avait pas trop Facebook et encore moins Instagram. Mais donc, on a vraiment utilisé Internet comme un outil à la fois pour nous faire connaître et puis en fait, tout simplement pour penser le business model de Gemio.
Ouais, forcément, du coup, assez vite, les plateformes sociales, elles se sont révélées assez indispensables, non, sur Gemio. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Hein.
Clairement. Alors nous, pour être honnête, on a surtout commencé à faire beaucoup de web marketing via du SEO et du SEA avec AdWords, donc c'est-à-dire de la publicité. Je ne vais pas rentrer dans des trucs trop compliqués, mais juste expliquer qu'en fait, nous, on avait plein de clients qui tapaient bague en or blanc Tanzanie, ou qui tapaient bague de fiançailles ou alliance de mariage, etc. Et donc, tout de suite, on a compris qu'il fallait qu'on soit très bien positionné sur ces mots-clés-là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Au niveau des réseaux sociaux, bah, une fois de plus, en 2011, par exemple, Instagram, je sais que ça existait, mais c'était tellement le début.
Ouais, on était encore loin, on était aux prémices.
Voilà, c'était quand même assez niche, hein, faut le dire. Et du coup, on a tout de suite commencé plutôt avec Facebook. Et Facebook, pour le coup, on a été, je sais pas si on a été très bon, mais en tout cas, on a vraiment beaucoup décidé d'investir dessus. Il n'y avait pas de publicité à l'époque, donc c'était que de l'organique. Et donc, on essayait de faire des campagnes organiques. Et je dois dire que...
Du début des réseaux sociaux.
C'est ça. Mais en fait, ce qui était génial, c'est que bah, c'est un peu comme... je sais que vous parlez beaucoup de TikTok, c'est un peu comme TikTok maintenant, c'est-à-dire ouais. que ou comme Instagram en 2015. C'est-à-dire que sincèrement, l'organique avait un pouvoir colossal. Nous, on n'a quasiment pas dépensé d'argent, on est arrivé à 60 000 followers sur fans à l'époque, on disait sur Facebook en très peu de temps, notamment pour deux raisons. Déjà parce qu'on faisait des partenariats déjà avec quelques blogueuses ou personnes présentes sur Facebook, et puis on avait décidé de lancer des campagnes un peu virales assez rigolotes, où on avait fait dessiner, je me rappelle, à une amie à moi illustratrice, où elle croquait des moments où les hommes avaient offert des cadeaux un peu pourris, et l'idée c'était de faire réagir les gens dessus et de les faire rigoler. Et donc tu voyais à toutes les époques de la préhistoire jusqu'à nos jours, donc tu voyais le type qui débarquait avec une pique, au bout de sa pique il y avait une tête de cochon, tu vois, qui filait à sa copine qui était habillée donc en habit de préhistoire plutôt qu'un bijou. Tu pouvais avoir pareil finalement quelqu'un qui livrait une tête sur un plateau d'argent à l'époque de la guillotine. Enfin voilà, c'était un peu des trucs comme ça humoristiques, et ça avait vachement aidé à nous faire connaître de manière complètement gratuite.
Alors, tu parlais de Facebook, effectivement, vous avez aujourd'hui 60 000 fans sur Facebook. Instagram, c'est aussi 60 000 abonnés. Et puis, j'ai remarqué aussi que vous aviez une belle présence Pinterest avec 135 000 visiteurs mensuels. J'ai vu ça. Donc, oui, il y a une vraie stratégie social media, on va y revenir. Mais Pinterest, déjà, moi, j'ai une première question là-dessus. C'est est-ce que vous arrivez à savoir un peu ce que ça vous ramène en termes de business d'être présent sur cette plateforme?
Bah, nous, Pinterest, c'est une plateforme qu'on a regardée de près assez tôt, parce qu'en fait, la joaillerie, c'est très souvent des achats qui sont des achats dans le cadre d'un projet. Ça peut être le projet d'une naissance, ça peut être le projet d'un mariage, ce genre de choses. Et du coup, c'est assez lié à l'univers de Pinterest, qui est aussi beaucoup tourné autour des projets. Parce que souvent, ces tableaux d'inspiration, quand on les fait, c'est pas juste comme ça qu'on a envie de se faire un tableau d'inspiration. C'est parce qu'en fait, on va avoir un enfant, et du coup, qu'on se dit, ah bah, la chambre de bébé, à quoi elle va ressembler, et du coup, etc. Et pareil pour un mariage, par exemple. Et donc pour nous, c'était assez naturel, si tu veux, parce que finalement nos personas, on en revient toujours au marketing, étaient des personas qui étaient très présents sur Pinterest. Donc on l'a travaillé très tôt, on l'a travaillé au début de manière assez simple, juste en créant en fait plein de tableaux assez naturellement, tu vois, sur nos pierres de naissance, sur la joaillerie, etc., sur l'univers du mariage. Et franchement, c'est monté de manière complètement organique. On a fait très peu de pubs historiquement sur Pinterest, et pour autant aujourd'hui, bah, comme tu le disais, on a beaucoup de visibilité dessus, et on a on le sait. Alors je peux pas te dire exactement parce que c'est difficile à traquer malgré tout, mais on sait évidemment qu'on a une forte partie quand même de notre trafic qui vient de Pinterest.
Ouais, si on parle aussi maintenant d'Instagram, hein, quand on pense plateforme sociale, bah, on se dit forcément qu'Instagram et Gemio, c'est fait pour marcher ensemble, hein, ça c'est à peu près clair. Quel impact tu penses que ça a eu là maintenant, qu'on est en 2021, qu'Instagram a explosé, quel impact tu penses que Instagram a pu avoir sur une marque comme Gemio, sur sa notoriété?
Énorme.
J'entends, hein.
Énorme. Alors, sur la notoriété, puis sur les ventes, je vais être claire, nous, Instagram, c'est un levier d'acquisition qui est très fort, via de la publicité, mais aussi tout simplement via de l'organique. Instagram Shopping, et puis Instagram met en avant des images. Nous, on a une particularité avec Gemio, vous savez, c'est que malheureusement, les gens n'achètent pas un bijou comme ça de manière impulsive, donc c'est pas parce qu'ils voient une pub sur Instagram qu'ils achètent. En revanche, le nombre de fois où on parle en boutique à nos clients, on fait énormément de focus group, et puis on fait énormément de sondages auprès de nos clients pour savoir comment ils nous ont connus, on sait que nos clients, en fait, ont soit connu la marque via Instagram, soit ont été réactivés par Instagram. Et donc Instagram est vraiment un endroit aujourd'hui qui est un passage obligé, je pense, pour beaucoup de marques, mais notamment toutes les marques qui vendent des produits qui essayent d'être beaux, hein, ça c'est clair, ou en tout cas des produits d'image. C'est hyper hyper important parce que c'est pas uniquement de l'acquisition, c'est aussi de la réactivation. On a plein de clients, par exemple, qui nous ont pas connus via Instagram, mais parce qu'à un moment donné, ils voient passer une publicité Instagram avec un produit qui les inspire, ils vont pas forcément acheter ce produit-là, mais par contre, ils vont aller sur le site, ils vont aller en boutique, et à un moment donné, ils vont acheter un autre produit. Donc en fait, c'est vraiment un un touch point qui est extrêmement clé pour nous. Et je pense que l'un des enjeux, je pense, pour beaucoup de marketeurs, c'est de se dire, ah oui, mais j'ai investi beaucoup d'argent dessus, est-ce que ça convertit vraiment? Je suis désolée, je parle peut-être un peu trop de business.
Non, alors mais attention, derrière les micros, il y en a qui touchent là, attention, hein, on peut y aller, hein, lâche les chiens, Pauline, n'hésite pas.
Non, mais je vais rester sobre. Mais par contre, c'est clair que tu vois, quand tu dépenses parfois des dizaines ou des centaines de milliers d'euros par mois sur de la publicité, bon, bah, t'as quand même envie de savoir si ça marche ou pas. Et le problème, notamment pour une marque comme Jemio, c'est que le tracking, donc le fait de pouvoir comprendre si effectivement la publicité que tu fais permet de convertir une vente, est très difficile puisque les gens mettent beaucoup de temps à se décider, que souvent la personne qui voit la publicité sur Instagram n'est pas la personne qui achète, puisque très souvent c'est l'homme qui achète pour faire un cadeau. Donc il y avait beaucoup d'enjeux. Et bien, grâce à tous les sondages qu'on peut faire, on voit en réalité qu'il y a un impact colossal d'Instagram sur nos ventes, tout simplement parce que, comme je vous le disais, ça permet de réactiver d'anciens clients. Ça permet également de même des personnes qui nous connaissaient, qui n'avaient jamais acheté, bah juste de leur donner envie, tout simplement.
Ouais, et au sujet de la preuve sociale, ça c'est un truc je trouve qui est souvent oublié quand on parle réseaux sociaux, on parle très vite, on est très vite tenté de parler notoriété et puis ROI. Et moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, qui est celui de la preuve sociale, hein, de la réassurance. Où est-ce que tu penses que Jemio, vous êtes allé chercher ça? Comment est-ce que vous travaillez ce sujet-là? Parce que j'imagine effectivement que l'achat d'une bague, eh bien voilà, on a besoin de benchmarker, on a besoin de regarder, puis on a besoin à un moment donné aussi de se rassurer, de savoir comment c'est l'expérience d'achat, comment j'ai été conseillé, que ça soit en ligne ou en boutique. Où est-ce que vous bossez ça, vous?
Ben alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'y crois aussi énormément et on est en train de beaucoup y travailler. Je suis pas sûre qu'on était toujours très bon, en tout cas sur les réseaux sociaux. Nous, on a toujours été très, très actifs sur tout ce qui est forum, sur tout ce qui est, tu sais, les sites d'avis, etc. Même si certains disent que c'est pipeau et tout. Oui, mais globalement, si tu prends les statistiques, quelqu'un qui a mis l'avis, il y a un moment donné où il y a quand même des choses qui ça traduit quand même une réalité. Donc, c'est des choses sur lesquelles on a toujours passé du temps, en fait, pour que nos clients, ben, laissent des avis. Comme vous, je sais que vous le faites aussi avec le super délit de susciter, si tu veux, cet avis. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que malheureusement, il y a un biais quand même naturel qui est que les gens laissent plutôt un avis quand c'est négatif et qu'ils ont malheureusement une mauvaise expérience. On le sait bien. Donc voilà, on essaie de compenser le biais. Mais au-delà de ça, sur les réseaux sociaux, je vais vous raconter une anecdote rigolote. Juste avant le confinement, on a fait une soirée. C'est marrant d'ailleurs, c'était genre le 13 mars. Donc vraiment, on est passé
juste avant.
Exactement. Très confidentiel avec quelques clients pour le lancement de notre nouvelle collection Opéra. Et donc, je discutais avec certaines clientes et notamment certaines que je ne connaissais pas qui me disent qu'elles se sont rencontrées entre elles parce qu'en fait elles sont toutes les deux fans de Jemio sur Instagram et que comme l'une d'entre elles était quelqu'un qui n'avait encore pas passé commande, elle s'est permis de contacter quelqu'un qu'elle voyait d'assez actif, qui avait dit qu'elle était elle-même cliente, et l'a contactée spontanément pour lui demander comment ça s'était passé, etc. Et je me suis dit, mais c'est dingue,
c'est dingue.
À quel point les gens, en fait, et c'est normal. Et du coup, maintenant, moi, je dis à mon service clientèle, mais quand vous avez quelqu'un qui a un peu peur, etc., mais redirigez-les vers nos clients sur Instagram. Vous leur dites, rien ne les empêche de contacter un ancien client via Instagram et de leur dire, tu vois, qui a mis, par exemple, hashtag Jemio et du coup, qui pourrait parler de son expérience. Au contraire. Et donc, on pousse, si tu veux, cette preuve sociale en leur disant, si vous n'êtes pas rassuré, n'hésitez pas, en fait, à contacter d'anciens clients parce que nous, finalement, on est sûr de notre qualité, de notre savoir-faire. Et plutôt, entre guillemets, de donner un biais qui est de dire, ben non, on vous assure que c'est bien, ou de rediriger vers un client, du coup, on peut penser, si tu veux, qu'on l'a choisi, etc. Si on leur dit, mais vous inquiétez pas, vous avez le hashtag Jemio, vous contactez n'importe quel client, vous lui demandez si ça lui a plu.
Ouais, c'est génial, ça.
Mais c'est extrêmement puissant.
Et là, on retrouve bien, tu vois, dans l'anecdote que tu nous racontais, moi, je retrouve bien tous les bienfaits du conversationnel. Alors, on est allé regarder un petit peu sur vos réseaux. Effectivement, on a vu que vous répondiez à tous les commentaires et que vous tentiez, en tout cas, de favoriser.
Ah, ça bosse, hein. Attention, hein, là, les écrans, ça rigole pas. Hein.
Donc, on a différentes questions là-dessus. Nous, on remarque qu'il y a quand même déjà un déplacement du conversationnel un petit peu vers les messageries privées. Et tu vois, l'anecdote que tu racontais, elle va aussi un petit peu dans ce sens-là, où il y a une prise de contact pour après, j'imagine, les clientes qui ont discuté en privé. Déjà, comment ça s'organise un petit peu chez vous, c'est tout ça, là, répondre à tout le community management, répondre à tout le monde, et comment vous envisagez le conversationnel?
Alors, c'est une super bonne question. On a changé plein de fois. Avant, c'était l'équipe marketing. Ensuite, on a une équipe dédiée vraiment réseaux sociaux. Et maintenant, en fait, on s'est dit que finalement, la meilleure équipe pour répondre à toutes ces questions, qui sont quand même bien souvent des questions de conseils, de techniques, etc., c'est notre équipe de service clientèle. Et donc, aujourd'hui, c'est notre équipe de service clientèle. Donc, ce sont vraiment les personnes qui sont en boutique ou qui sont derrière le téléphone quand vous appelez le numéro de téléphone Jemio, qui répondent. Et donc, ce qui est super, si tu veux, c'est que c'est vraiment, on a des réponses qui sont des réponses assez informées sur les produits, sur nos conditions, enfin tout ça. Donc ça, aujourd'hui, la manière dont c'est organisé, c'est vraiment peut-être particulier. Je sais qu'il y a peu de boîtes qui le font comme ça, mais nous, en tout cas, ça fonctionne bien. C'est de demander à nos équipes de service clientèle, on a pas mal maintenant de conseillers, donc je sais pas, je dois vous dire quelque chose comme 15 personnes en gros qui travaillent entre les boutiques et le service clientèle et du coup qui se répartissent les rôles et qui en permanence doivent répondre. Et donc ce qui est super, si tu veux, c'est que plutôt que d'avoir entre guillemets une personne 100% dédiée à cette conversation, bah on a vraiment plein de monde qui peut être disponible et en permanence répondre. Et donc c'est pour ça, je pense qu'on y répond assez bien, et vous l'avez dit, ça me fait plaisir, on répond à tous les commentaires. Non seulement on répond à tous les commentaires, mais quand on est tagué, quand il y a hashtag Gémio, on essaie d'y répondre pour montrer tout simplement de la considération à nos clients. D'autre ouais. part, ce que je trouvais intéressant, c'était de finalement scinder, mais je sais bien que tout le monde ne fait pas ça, la répartition des rôles entre, on va dire, la création de contenu et la conversation. Parce que pour moi, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et que finalement, quelqu'un qui va vouloir créer des contenus, c'est quelqu'un qui est dans l'inspiration, enfin, en tout cas pour nous, et quelqu'un qui est très focus sur la manière dont le texte va être ciselé, sur l'image, etc., qui a déjà beaucoup de boulot en général. Et je trouvais que c'était vraiment beaucoup, finalement, pour une même équipe de gérer la conversation et le service clientèle. Et d'autant plus qu'on se rendait compte que finalement, très souvent, quand c'était l'équipe marketing qui répondait, tu vois, même s'ils étaient bons, bah, au final, ils avaient pas forcément les réponses précises sur OK, est-ce que là, il vaut mieux une pierre de 4 mm et demi ou de 5 mm?
Est-ce que vous analysez aussi ce qui se dit dans les conversations sur Insta, Facebook, etc., pour derrière justement nourrir le service marketing, peaufiner l'expérience client? Comment ça se passe? Ça vous arrivez à lire vraiment ce qui s'y passe et à faire le lien entre tout ce qui se passe en community management et remonter de l'insight sur le marketing?
Alors, on le fait beaucoup, effectivement. On le fait parce qu'en fait, on a un processus qui est que chaque semaine, on a des remontées, c'est automatisé maintenant, on a des remontées en fait de notre service clientèle, justement, et notamment qui doivent aussi nous remonter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois, si jamais on lance une nouvelle collection, on va leur demander quelles sont les premières réactions, on va leur demander des screenshots de qu'est-ce qui a été dit. Pas pour les fliquer, mais juste pour voir en fait les mots qui ont été utilisés.
Bien sûr,
donc,
ouais.
Aujourd'hui, c'est hyper important pour nous, justement, de percevoir quelle est la conversation autour de la marque pour comprendre qu'est-ce qui est apprécié, qu'est-ce qui au contraire doit être travaillé, est-ce qu'il y a un risque potentiel qu'on se repose un peu trop sur nos lauriers, est-ce qu'il y a des points d'attention, est-ce qu'au contraire il y a des choses qui marchent hyper bien sur lesquelles il faut qu'on appuie plus. Tu vois, je te donne un exemple, on a fait récemment des posts sur des pierres. Bizarrement, on faisait beaucoup de posts avant sur nos bijoux et de contenu sur nos bijoux, mais pas tellement sur la pierre, sur qu'est-ce que c'est vraiment qu'une pierre, sur ses vertus, sur sa symbolique et tout. Et honnêtement, les réactions étaient telles. Déjà, tu le vois en termes de likes, tu le vois en termes de nombre de commentaires, en nombre de messages directs reçus, ensuite en nombre de rendez-vous qui sont calés suite à ça en boutique. Mais on s'est dit, en fait, on passe complètement à côté d'un univers entier qui intéresse énormément notre clientèle. Et donc ça, si tu veux, cette connaissance client, elle est effectivement, je trouve, hyper, hyper importante. Et les réseaux sociaux sont un outil merveilleux pour le faire. Après, ce qui n'est pas évident, c'est OK, comment est-ce que tu organises ces remontées?
Ouais. Autre question, toujours un peu sur ce sujet, hein, du conversationnel. J'ai vu que pendant le confinement, tu organisais des sessions de rendez-vous privés en visio. J'ai trouvé ça assez génial. En gros, une espèce de one-to-one en vidéo avec des clients. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience là-dessus? J'ai pas vu beaucoup d'initiatives de ce type. Je trouve ça vraiment très cool.
Effectivement, pendant le confinement, en fait, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que la Terre avait arrêté, mais s'il y avait un endroit où la Terre entière était, c'était les réseaux sociaux. Donc on s'est dit, même si on peut plus produire, ce qui était le cas malheureusement, même si on peut plus envoyer nos bijoux parce qu'on voulait pas prendre de risques vis-à-vis de tous nos partenaires, etc., et pas les faire travailler dans ces conditions, on s'est dit, au moins, on va exister sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je dois dire que comme beaucoup de marques de joaillerie peut-être sont moins digitales que nous, finalement, je pense qu'on a pris pas mal de parts de marché à ce moment-là, sur les sociaux et ailleurs, parce que on a été extrêmement présents. Et donc, c'est passé par deux choses. Effectivement, déjà, on a créé beaucoup de contenu, beaucoup, beaucoup de lives, beaucoup de choses comme ça, où je dois dire que l'équipe a joué un super jeu sur ce sujet. Enfin, on a été très présents. Et au-delà de ça, ce que tu évoquais à l'instant, on s'est dit, finalement, nos boutiques sont fermées, nos clients ne peuvent plus venir à nous, on va venir à eux. Et donc, on va organiser des rendez-vous vidéo, finalement, pourquoi est-ce que ça marcherait pas? Et ce qui est super, c'est que ça a été, quand je dis un carton, c'est c'est fou parce que moi-même, c'est marrant, hein, je suis vendeuse au sens où je disais à mes clients, mais vous allez voir, c'est super, ça rend très bien. Mais moi-même, je me rappelle la première fois que j'ai vu à quoi ça ressemblait, je me suis dit, mais c'est dingue. Parce qu'en fait, si tu veux, on utilisait donc tout simplement un téléphone pour montrer les bijoux de près. Mais si tu veux, la définition avec laquelle tu peux montrer sur WhatsApp, hein, c'était aussi bête qu'un WhatsApp, tu peux montrer le bijou, expliquer, passer en plus en mode ben, face caméra et ensuite de l'autre côté. Mais j'avais l'impression, c'était presque mieux qu'en boutique. Enfin, franchement, c'était hyper bien. Et donc ça marchait hyper bien parce que vraiment l'expérience, je pense, était au rendez-vous. Après, la difficulté, c'était plutôt de convaincre les personnes de le faire parce que je pense que les usages sont pas encore établis sur ce sujet. Mais on a vraiment vu, entre le début du confinement et même maintenant, c'est quelque chose qu'on a laissé. Tu vois, comme quoi le confinement a eu du bon d'une certaine manière. Tous nos clients qui n'habitent pas dans les villes dans lesquelles on a des boutiques, c'est-à-dire Paris, Lyon et Toulouse, bah, aujourd'hui, ils peuvent faire une demande de rendez-vous vidéo et on le fait. Et ouais, c'est génial. Parce que c'est génial. C'est comme si ça reproduit un peu finalement le joaillier, tu vois, qui venait chez toi pour te montrer quand, dans l'ancien temps, on va dire, pour les personnes très fortunées, ouais. Il venait, il t'apportait tous ces joyaux. Bah là, finalement, c'est un peu ça. On va chez nos clients, concrètement, via le rendez-vous vidéo.
Puisqu'on parle d'usage et de nouveaux usages, toi, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Facebook Shops? J'imagine que tu as suivi ça, évidemment, de très, très près, et notamment de la fonctionnalité checkout qui est annoncée et très attendue par certains. Est-ce que demain, dès qu'on pourra payer en ligne sur Facebook et Instagram, vous arrêtez votre site internet et vous balancez tout sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous avez en tête du côté de Gmail?
Non, je sais pas. Écoute, nous, je te dis une fois de plus, on est sur un secteur assez particulier parce que c'est un secteur qui nécessite beaucoup de temps d'achat. Et donc, moi, je vois vraiment les réseaux sociaux pour nous comme pas tellement comme un lieu de vente, même si je pense qu'il y en aura, hein, mais surtout comme un lieu de désirabilité, tu vois, d'inspiration et création de communauté. Donc, ça, clairement, c'est les points qui sont très importants. Est-ce que les gens vont passer commande sur Instagram? Peut-être. Je te dis, la réalité, c'est que les gens mettent beaucoup de temps, hein, plusieurs semaines avant de se décider. Donc, je pense que pour nous, si je suis honnête, c'est un petit peu moins pertinent que, bah, tu vois, même si moi, avec le gratin, je lance ma formation Growth, là, oui, ça peut peut-être être pertinent. Mais pour des achats, peut-être un petit peu plus impulsifs. Mais c'est vrai que je trouve que c'est extrêmement intéressant et ça pose beaucoup de questions. Et je me demande si à terme, il n'y a pas effectivement certaines boîtes, tu vois, de DNVB, donc des entreprises d'influenceurs. On voit tous les influenceurs se lancer dans la mode, etc. Rien ne les empêche, je pense, à terme, de ne pas avoir de site internet autre que leur compte Instagram, franchement.
Ouais, c'est fou, hein, ce qui est en train de se produire là.
Pauline, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu podcast aussi, puisque, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais toi, tu as ton podcast Le Gratin depuis début 2018, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Et rapidement, dans la même année, il y a un autre podcast qui s'est monté autour de la marque Gémio, justement, qui s'appelle Chalalove. C'est un véritable podcast de marque, 33 épisodes aujourd'hui. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. La première, c'est déjà, quelle a été la volonté, l'intérêt pour la marque de monter ce podcast-là? Et puis, aujourd'hui, vous en êtes à 33 épisodes. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus? Où on en est sur tout ça?
Alors, excellente question. Effectivement, on a lancé ce podcast Chalalove. Je dirais qu'on fait partie vraiment des premières marques à avoir lancé un podcast.
On en avait parlé, on a été très contents d'en parler parce que effectivement, on avait creusé sur ce sujet des podcasts de marque et on cherchait des super case studies et c'était pas si simple à l'époque, effectivement. Non. Et il y avait Chalalove, super, super beau projet, oui.
Bon, alors après, pour être honnête, évidemment, je l'ai lancé parce que comme je savais monter un podcast, parce que je l'avais fait avec Le Gratin, c'était plus facile pour moi. On n'est pas passé par une agence, on a tout fait tout seul. Mais pour moi, en fait, c'est quand j'ai vu la puissance en fait du podcast au niveau communautaire, notamment. Enfin, je pense que vous le vivez aussi avec le Super Daily, c'est à quel point les retours sont qualitatifs, les gens sont impliqués, intéressés. Je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que Gémio ne pourrait pas aussi avoir un podcast? Et en l'occurrence, j'ai commencé à réfléchir avec l'équipe, justement, bah, c'est quoi notre identité? Et de quoi est-ce qu'on a envie de parler, quel est le territoire dont on a envie de s'emparer. On aurait pu parler de joaillerie, mais on s'est dit que c'était un peu limitatif. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que de manière beaucoup plus large, nous, notre territoire, c'est l'amour. Parce que finalement, je le disais, les gens qui achètent des bijoux, c'est quand même pas que, mais c'est très souvent pour célébrer finalement soit une union, soit une naissance, soit un anniversaire, et c'est très souvent un acte de couple. Et je me suis rendu compte en creusant.
Est-ce que c'est dans votre plateforme de marque, c'est votre why tout ça?
Non, c'est pas notre why. Notre why, c'est beaucoup plus autour de l'affirmation de soi et d'exprimer sa singularité. Donc, d'ailleurs, c'est justifié par le concept, tu vois, de personnalisation des pierres et du métal. Ouais. Mais ça aurait pu. Franchement, ça aurait pu. Ça fait partie, si tu veux, en tout cas, des valeurs de la marque. Et puis puis même de l'histoire fondatrice qui est, comme tu sais, voilà, par rapport à un mariage entre moi et mon associé d'ailleurs.
Oui.
Et donc voilà. Mais en fait, on l'a fait parce que surtout là, c'était de manière pas intéressée, mais c'est parce que je me suis dit finalement, si on lance un podcast, il faut que ça intéresse quand même les gens. Et je me suis dit, la joaillerie, ça va intéresser certaines personnes, mais qui sont des experts, etc. Donc, j'étais pas sûre finalement que ça soit le cœur de cible de Gémio. Et donc, si je réfléchissais plus à notre persona, pour le coup, je me suis dit, ben, cette thématique de l'amour, elle est intéressante. En l'occurrence, elle n'était pas traitée dans l'univers des podcasts. Et je me suis dit, bah, même moi, finalement, en tant qu'auditrice potentielle, je pourrais être intéressée parce qu'en fait, finalement, il y a plein de podcasts sur le business, sur l'entrepreneuriat, sur le marketing. Mais finalement, quand on va pas très bien dans son couple ou quand on se marie ou quand on a un bébé, ben, c'est pas forcément facile de savoir comment réagir quand on a un souci. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de donner la parole finalement à des couples, connus ou pas connus, qui puissent nous parler un peu sans tabou de leur relation, de leur moment d'échec, mais aussi de leur moment de joie, de leurs astuces aussi pour réussir à pérenniser leur couple. Et donc c'était ça vraiment l'idée de Chalalove. On l'a lancé, je crois, en septembre 2018, si je me trompe pas, ou 19.
C'est ce que j'avais vu à peu près, 2018. Non,
voilà, ouais, 2018.
C'était 2018.
Et en fait, ça a hyper bien marché parce que on est monté quand même, je crois, à quelque chose comme 130 000, 140 000 écoutes par mois. Donc franchement, pour un podcast de marque, c'est beaucoup.
C'est énorme.
Et c'est parce que je pense que ça répondait à un besoin qui était, bah voilà, qu'il n'y avait pas du tout de contenu sur ce sujet, sur l'amour, quoi, tout simplement, et sur la vie de couple, enfin sur les relations finalement entre couples. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était d'avoir évidemment des influenceurs, etc., qui parlaient de leurs relations particulières, mais on a eu aussi des sportifs de haut niveau, on a eu des personnes beaucoup plus âgées. Enfin, j'ai eu un couple, je crois que lui avait 88 ans et elle 86, et du coup, avoir, si tu veux, le retour d'expérience d'une vie passée en couple, c'est quand même assez dément quand on y pense. Des couples de divorcés, des familles reconstituées, des couples gays, enfin, je trouvais que c'était hyper intéressant. En plus, c'était pas directement lié à Gémio, au sens où on parlait pas de joaillerie, mais quand même bien souvent dans le cadre de la conversation, bah, ils se mariaient, on rigolait un peu, on parlait de bagues de fiançailles. Donc il y avait quand même un lien. Et puis au-delà de ça, ça je trouve que ça racontait une histoire sur la marque qui était très intéressante parce que bah, on devenait un peu le joaillier de l'amour d'une certaine manière et de l'amour en fait dans tous ses états, ce qui est la réalité de Gémio parce que on est une marque qui essaye d'être la plus sincère et authentique possible. Et du coup, bah, montrer, si tu veux, que c'est pas juste, si tu veux, la star hollywoodienne, tu sais, le film parfait où en gros à la fin c'est happy ending et puis on sait jamais ce qui se passe. Non, là c'était pas ça, c'était la vraie vie et c'est une très belle histoire d'amour, mais avec ses hauts, ses bas, ses moments de difficulté, et puis c'est ça qui est beau. Et donc je pense que voilà, ça a fonctionné parce que ça répondait à un besoin. Après on l'a arrêté. Donc au bout de 33 épisodes, pas parce que ça marchait plus, et d'ailleurs on a régulièrement des personnes qui nous demandent encore, ah, quand est-ce que vous relancez Chalalove?
Bah, regarde, c'est la question qu'on se pose.
Ouais. mais en fait on l'a arrêté parce que j'ai trouvé, et l'équipe Gémio aussi, que au bout de 33 épisodes, malgré tout, on tournait un tout petit peu en rond, c'est-à-dire que on avait eu plein de profils hyper intéressants, d'histoires hyper intéressantes, mais on trouvait que ça se renouvelait plus énormément, si je suis honnête. Et puis c'est quand même un temps de travail, enfin vous êtes bien placé pour le savoir, qui est important, le podcast.
Ouais.
Et donc à un moment donné on s'est dit, bah finalement, est-ce que ce temps on veut l'investir sur ce sujet ou est-ce qu'on veut l'investir sur autre chose? C'est même pas une question financière, c'est vraiment la ressource de temps, surtout que c'était moi qui finalement était l'intervieweuse. Bah finalement on s'est dit, non, il vaut peut-être mieux qu'on consacre ce temps à faire plus de live sur Instagram par exemple, d'autres choses. Et donc on a préféré laisser entre guillemets le podcast s'éteindre, mais au moment où il était à son pic, en se disant, bah peut-être qu'on aura d'autres opportunités de relancer des podcasts sur d'autres thématiques. Et moi je trouve que un conseil que je peux donner aux personnes qui souhaitent se lancer sur le podcast de marque, c'est réfléchissez bien en fait à, est-ce que vous voulez en faire quelque chose de vraiment très long terme? C'est pas facile à savoir, hein, mais est-ce que c'est vraiment un sujet sur lequel vous allez pouvoir vous exprimer pendant des années, ou est-ce qu'en fait il vaut peut-être mieux pas en faire des saisons, en faire une trentaine d'épisodes, une quarantaine d'épisodes, parce que c'est quand même un investissement de temps qui est très très important.
Ouais, c'est intéressant tout ça. Alors, parallèlement à tout ça, Pauline Léniaud et Bata aussi, une grosse présence social media personnelle. Hein. On a déjà parlé du gratin. On peut parler de LinkedIn aussi, où tu es très active. Et puis évidemment, Instagram, que je suis avec beaucoup d'assiduité. Est-ce que pour toi, c'est important aujourd'hui qu'une marque soit incarnée? Si je pose la question différemment, à quoi ça sert que Pauline Léniaud soit sur le devant de l'affiche et aussi active à titre personnel sur les réseaux sociaux pour la marque Gémio?
Bah, c'est drôle cette question parce que quand j'ai commencé à le faire, je l'ai pas. Enfin, déjà quand j'ai lancé Gemio, je n'avais aucune présence sur les réseaux sociaux. C'était pas un but en soi, tu vois, être connu et tout, c'était pas mon truc. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps que si jamais on voulait être en aligné justement avec l'ADN de Gemio et notamment le fait qu'on ait une marque qui est sincère, je parle de mon histoire d'amour quand même dans ce truc parce que je me suis fiancée avec mon associé et c'est si tu veux le storytelling de Gemio. Donc je me suis dit bah en fait il y a une réalité, c'est que c'est voilà, la sincérité est de mise. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé notamment avec le gratin à poster en fait, mais de manière très décorrélée de Gemio, juste des choses qui m'inspiraient, qui m'intéressaient, parler d'entrepreneuriat qui est un sujet qui m'anime. Et puis, je me suis rendu compte que je commençais à avoir une communauté qui se créait autour de ces contenus et qui n'était pas forcément liée à la joaillerie, qui n'était pas forcément liée à Gemio, mais que complètement indirectement et même sans, entre guillemets, que ce soit prémédité, qui très souvent, en fait, se redirigeait vers Gemio. Et donc, parce que Pauline Léniaud était une personne que certains trouvaient sympathique et pouvaient voilà, respecter, et bien du coup, ces gens se disaient « Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'elle fait cette Pauline Léniaud dans la vie ?» Et du coup, elle regardait Gemio, même si au début, je parlais vraiment très peu de Gemio, justement presque par peur en fait de paraître quelqu'un qui fait de la pub pour sa boîte. Et du coup, bah en fait, ça arrivait naturellement. Et on voyait de plus en plus de gens qui passaient commande parce que ils écoutaient le gratin ou parce que ils me suivaient sur les réseaux sociaux.
Ou ils avaient suivi ton concours de pâtes, par exemple.
Et ça, qui est quand même un moment historique. Enfin, je veux dire, concours de le meilleur pâte du monde, c'est quand même quelque chose. Et donc, tu vois, c'est arrivé de manière un petit peu spontanée. Et maintenant, en fait, bah je l'ai entre guillemets accepté et je trouve ça super chouette déjà, parce qu'en fait je trouve que finalement c'est encore plus entier et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler d'eux-mêmes quand ils sont à la tête d'une boîte. C'est pas fait pour tout le monde forcément, je dis pas qu'il faut nécessairement le faire, mais il y a une réalité, c'est que si jamais ça fait partie de l'ADN de la marque d'être sincère, authentique et finalement d'avoir vraiment une histoire à raconter, bah c'est encore plus puissant je trouve d'avoir un des fondateurs ou juste la vie de l'équipe qui est incarnée sur un compte différent. Ça peut être fait dans le cadre du compte de la marque, mais finalement je trouve que ce côté très très authentique du compte de fondateur, il apporte encore autre chose qui est presque une connexion, on va dire, humaine avec la marque. Et se rendre compte que la marque, c'est pas juste des beaux produits, c'est pas juste une histoire, etc. Non, en fait, il y a des vrais gens derrière et on les voit au quotidien. On voit quand ils souffrent, quand c'est difficile, quand ils sont fatigués, quand ils ont mal dormi, quand ils mangent des pâtes. Et ça, en fait, si tu veux, ça crée une communauté, mais qui est tellement soudée. En fait, moi, je reçois quotidiennement des messages de personnes qui me disent, j'ai pas de bijoux aujourd'hui, mais le jour où j'achète un bijou, c'est chez Gemio, je le sais. Ils savent même pas à la rigueur quels sont nos produits, mais c'est juste parce que comme ils apprécient mon discours, ben, si tu veux, ils sont, voilà, ils y croient, quoi.
Ouais, voilà, non, c'est incarné comme ça, non, c'est top, super, passionnant, Pauline, on pourrait parler encore pendant des heures, donc merci à toi, il est déjà tard, parce qu'on l'a pas dit, cet épisode est enregistré en fin de journée, on est tous un petit peu crevés. Écoute, super, super intéressant, un énorme merci d'être venu nous voir pour une deuxième session du Super Daily.
Ouais, parce qu'on aurait pu passer la soirée à discuter, là, si on s'arrête pas.
On le fera peut-être quand tu passes, on en a déjà parlé.
Quand je passe à Lyon, avec plaisir.
Qu'on aille manger un petit bout ensemble, ça ferait très très plaisir. En tout cas, encore une fois, ça nous fait très plaisir de t'avoir eu dans le Super Daily. N'hésitez pas, chers amis qui nous écoutez, à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Évidemment, à aller retrouver Pauline sur ses différents réseaux sociaux, à écouter le gratin, bien sûr, bah, ça vous le faites déjà. Et puis, on vous donne rendez-vous, du coup, sur Super Natif.
Oui, à Super Natif sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Vous pouvez venir en parler de cet épisode avec nous sur Twitter, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok ou Pinterest. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors, n'hésitez pas à nous laisser une petite note, un commentaire. On les lit tous. Ça nous fait super plaisir. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Ou alors, allez vous abonner au gratin aussi.
Pauline, encore une fois, merci.
Bah, merci à tous les deux. À bientôt.
Salut.
Salut, ciao.